France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Christine Angers, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Joséphine Reinhardtz, réalisé par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. Dans les colonnes du Monde, en octobre dernier, l'écrivain palestinien Karim Khatan interpellait « Où êtes-vous, mes pères, mes collègues, mes amis? Où êtes-vous, les écrivains? Où est votre parole collective, vous, faiseurs de mots? Pourquoi Gaza a-t-elle disparu derrière des sophismes, des approximations et des murmures désolés ?» Karim Khatan s'exprime souvent dans des tribunes, il s'exprime sur la guerre en cours, mais les mots, il les met aussi et surtout au service de la fiction, comme toutes celles et ceux que nous invitons cette semaine pour notre série « Les écrivains racontent le monde ». Avant que le fracas de la guerre ne se fasse de nouveau entendre, le 7 octobre 2023, il signait une histoire d'amour en Palestine, « L'Éden à l'aube » chez Elizade.
Le premier, le voilà. Il dort. Il a l'air si paisible, ce dormeur. Sa respiration est imperceptible. Il dort comme s'il était mort. Ses soucis se sont évaporés. Tout est derrière lui, le bruit, la fureur, le vent d'est qui rend fou. Il dort, oublieux de lui-même et du monde. Je vais tenter de vous le décrire, mais il n'y a rien à décrire d'un être humain qui dort. Je ne connais pas la couleur de ses yeux, et sa tête est posée sur un rocher de telle sorte que je ne distingue pas ses traits. Mais je peux vous dire qu'il dort, et qu'il a l'air paisible. Je peux vous dire aussi qu'il est adulte, il a les cheveux longs, il est maigre, osseux, et il dort. Il dort. Et partout autour de lui, la ville est en décombre. Bâtiments éventrés, barres métalliques élancées contre le ciel comme pour me percer et me faire saigner sur le dormeur. Mais le ciel est indifférent à leurs attaques. Derrière l'écran de sable, je suis bleu et clair, comme sont les ciels des aubes et des bombardements.
Cet homme qui dort, décrit ici par le narrateur qui n'est ni plus ni moins que le ciel, cet homme c'est Isaac. Il est ici on ne peut plus calme et on ne sait pas si c'est le début ou la fin de son histoire. Le deuxième, endormi aussi, est blond, comme une tache de blancheur dans le sable ocre. Il est beau, d'une beauté qui transcende temps et espace. On ne sait pas non plus de quelle ville en décombre émergent ces deux jeunes hommes. On comprendra bientôt que ce sont deux Palestiniens, qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils découvrent ce que c'est d'aimer dans un pays qui n'est pas vraiment le sien. Bonjour Karim Khatan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait paraître en août l'Éden à l'aube aux éditions Elizade. Et l'année où se déroule cette histoire, l'année de la rencontre entre Isaac et Gabriel, le Ramsin s'est levé en février des vents qui recouvrent Israël et la Palestine de poussière. Est-ce qu'il vient souvent se dresser en vrai, cet écran de sable entre les gens, effacer les horizons sur les mers?
J'ai démultiplié une réalité climatique qui est donc le Ramsin, qui est ce vent de sable qui occasionnellement souffle en Palestine. Alors dans mon expérience, dans ma petite expérience, c'est un vent qui dure 3 jours plutôt. Donc là, je l'ai démultiplié presque aux proportions d'une interminable saison, de presque une année entière. Donc c'est vraiment un vent, voilà, comme vous le dites, qui recouvre tout, qui rend tout opaque en fait, et qui incarne une forme de violence atmosphérique, en quelque sorte. Et pour moi, ce Ramsin, tel qu'il se manifeste dans l'Éden à l'aube, il permet un peu deux choses. Je dirais, c'est à la fois soustraire la Palestine au temps normal, pour faire en sorte que mon roman se déroule ailleurs que dans la temporalité normale, et en même temps incarner vraiment cette violence coloniale qui en fait s'immisce dans tous les pans de la vie. Et donc ce vent permet un peu de faire ces deux mouvements à la fois.
Faire en sorte que cette histoire se déroule ailleurs que dans la temporalité normale et aussi affranchir la Palestine de sa géographie en quelque sorte, puisque ce vent qu'on appelle Ramsin, on dit qu'il vient d'Est, c'est un vent d'Est, alors qu'il vient d'Égypte. C'est oui. Étrange, l'Égypte est à l'Ouest.
Oui, de... bon, c'est une petite facétie
littéraire.
De ma part.
D'accord,
littéraire,
on
ne
dit pas
biblique.
Le vent d'Est.
Non, c'est il y a un vent d'Est dans la Bible. Notamment, donc c'est une petite, il y a beaucoup de références bibliques de ce genre, et le vent d'Est, c'est vraiment ce vent dévastateur qui est évoqué par moments dans la Bible et qui vient, comme au début du roman, tarir les eaux, dessécher le monde.
Les fontaines, tarir les fontaines, apporter les sauterelles, parce que dans la Bible, l'Éternel refoule la mer par un vent d'Orient qui souffle avec exact. Impétuosité toute une nuit et qui met la mer à sec, et là les eaux se fendent. C'est ça, l'ouverture
ce même
de
vent,
l'eau.
C'est ce même vent que je convoque ici et qui permet d'entamer en fait l'histoire. Et puis d'affirmer dès le départ avec ce narrateur, ce ciel qui parfois justement prend un peu des échos d'Éternel, qui permet de dire voilà, on est en Palestine mais pas tout à fait là où vous pensez.
Il prend des échos d'Éternel, ce vent, mais on ne sait pas de quel Éternel, puisque en général, quand on veut reprocher à ce vent d'exister, on accuse tout le monde. On accuse, selon ses affinités et ses inimitiés, les Juifs, les Palestiniens, les Israéliens, les Samaritains, les sorciers, les Américains, les musulmans, les Russes, les Druzes, les Chinois, les Arabes, les homosexuels, les femmes, les chrétiens, l'enfer, l'adversaire, le Dieu. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Karim Khatan. Alors, affranchir la Palestine de sa géographie en faisant prendre l'Est pour l'Ouest et vice-versa, mais la nommer néanmoins, l'écrire Palestine. Vous n'êtes pas le seul à l'écrire, l'ONU l'écrit. 146 des 192 États membres le reconnaissent, plus de 20 organisations internationales. Qu'est-ce que ça change pour vous, écrivain, de l'écrire ce mot-là de Palestine ?
Vous posez la question à un moment clé, c'est-à-dire que je pense que je ne sais pas si ma réponse aurait été la même il y a un an et demi.
Quand
j'avais écrit le livre, où peut-être vivais-je encore avec une certaine naïveté sur certaines choses. Quand je vous réponds aujourd'hui, c'est un moment où je pense que ma position a changé. C'est-à-dire qu'avant, je me revendiquais comme écrivain palestinien, mais je me revendiquais d'abord comme écrivain. Depuis le 7 octobre, je me rends compte que la notion de Palestine, le mot de Palestine, comme vous le dites, le mot de palestinien est devenu sujet à précaution, controverse, polémique et toute forme d'effacement possible et imaginable, physique, métaphorique. Et donc là, je revendique le fait que je suis un écrivain palestinien. Et par la même occasion, je me rends compte que le mot Palestine, qui est un mot auquel je réfléchis pas, d'habitude, enfin, je veux dire, c'est un mot que j'utilise parce que c'est le mot qui décrit ma réalité politique et imaginaire.
Vous
et
y êtes né, à Bethléem.
C'est mon endroit, c'est mon univers, c'est mon territoire. Et ben là, tout d'un coup, il a pris une force que je lui prêtais peut-être un tout petit peu moins avant.
Pourtant, palestinien, ça, c'est factuel, ça renvoie à une appartenance nationale commune. Mais ce mot de Palestine, en tout cas, il y a un an et demi, vous l'écrivez comme d'un isme. Vous écrivez que la Palestine, c'est un isme qu'il faut nommer, sinon il s'envolerait.
Oui, tout à fait.
Il deviendrait R.
Dans ce récit, dans le roman, en fait, on perçoit dès le départ une hésitation du narrateur ciel, qui, pour le coup, est aussi une hésitation mienne. Il rechigne un peu en fait à dire où se passe cette histoire, c'est-à-dire qu'il veut lui donner au départ une forme de, il veut lui faire accéder à l'universalisme, à une forme d'universalité, et au fur et à mesure, il se rend compte qu'il doit la nommer Palestine, puisque sans cette nomination-là, sans l'existence de la Palestine et sans désigner la réalité palestinienne, qui est notamment une réalité d'occupation et d'apartheid, alors l'histoire n'a plus de sens. Et donc, au fur et à mesure, il y a vraiment une section où le ciel consent à dire « bon, bah, je dois bien vous dire où ça se déroule. Ça se déroule dans ce pays qui s'appelle Palestine, dans cette terre qui s'appelle Palestine.
Pourquoi avoir choisi comme narrateur celui qui dit « je », le ciel, justement ce ciel bleu et clair qui est au-dessus de l'écran de sable? Qu'est-ce qu'il voit mieux que les autres de la Palestine, le ciel? Et quelles nuances, au contraire, ne distingue-t-il pas?
Je suis parti avec le désir de faire advenir cette histoire d'amour dite par une variété de narrateurs inanimés. Mmh. Au début, j'imaginais le ciel, un oiseau, j'ai même imaginé une basket. Hein, moment, pendant très longtemps, j'ai écrit la basket avant de me rendre compte que c'était une basket, hein, pas deux. avant de me rendre compte que bon, c'était peut-être pas très pertinent pour. Et au fur et à mesure, je suis revenu au ciel parce que il s'imposait à moi, en fait. Il permet d'adopter une voix à la fois précieuse, poétique, parfois drôle, parfois ironique, qui regarde au-dessus ces êtres humains se débattre dans l'ici-bas. Et il est en regard de la terre, c'est-à-dire qu'il permet, un peu comme le vent, quelque part, de réinscrire la Palestine dans une temporalité beaucoup plus longue, avec un souffle plus long, qui serait un souffle, j'ai pas envie de dire divin, parce que j'essaye un peu aussi de pas lui accorder beaucoup d'attributs divins, mais une temporalité plus historique, d'un autre ordre que celle qu'on a d'habitude pour la Palestine.
En tout cas, de sa position de ciel, quand il voit une ville bombardée, elle est pareille à toute autre ville bombardée, défoncée, éviscérée par des mains invisibles, mais comme laissant le vent passer, paisible, telle une forêt. Et c'est de là qu'il regarde ses narrateurs, oui, ses personnages.
Vous savez, cette description de cette première vision d'Isaac dans une ville en décombre, éviscérée, je l'ai écrite il y a bien longtemps et je l'écoutais aujourd'hui, c'est très troublant aussi. C'est très troublant puisque c'est un écho direct à la destruction de Gaza, en fait. Et ça a fait trembler aussi de se dire que cette projection... Alors, on a connu les bombardements. Gaza est bombardé depuis très longtemps, de façon très régulière, par Israël. Mais c'est vrai que ça prend des échos un peu différents, tout d'un coup, d'écouter cet extrait aujourd'hui.
Et d'écouter aussi l'histoire de la Palestine. Est-ce qu'il s'y passe par une histoire d'amour? Le ciel donc présente au départ les deux personnages de cette histoire, qui sont deux hommes à qui il donne deux prénoms, les prénoms d'Isaac et de Gabriel, qui peuvent prêter à confusion dans un premier temps. On ne sait pas bien s'ils sont palestiniens, israéliens, s'ils sont musulmans, juifs ou chrétiens. Vous avez fait exprès de jouer sur cette légère confusion.
Vous savez, c'est drôle, pas tant que ça pour les prénoms, en tout cas, parce que bon, j'ai beaucoup hésité sur les prénoms, et finalement, pour toutes sortes de raisons, j'ai choisi ces deux prénoms bibliques, coraniques, etc. L'un étant l'ange, l'archange, l'autre étant le fils presque sacrifié. Et ce n'est que très très tard que je me suis dit, ah tiens, en fait, une personne française lisant ça pourrait ne pas tout à fait comprendre. Or, bon, les versions arabes des noms Gabriel et Isaac sont des noms
courants. Ouais.
Gabriel courant, Isaac moins courant, mais quand même, hein, on peut rencontrer des Isaac en Palestine. Et donc, c'était pas vraiment cet objectif, c'était plus des noms, je pense, pour moi, qui avaient une forte charge symbolique. Cependant, oui, je tenais à ce que on ne puisse pas, comme vous le dites, exactement catégoriser de façon administrative ces deux hommes. C'est-à-dire que on comprend que l'un des deux est chrétien. Gabriel, bon, on voit qu'il évolue dans un univers palestinien chrétien. Quant à Isaac, l'autre, on ne sait pas. Il peut se prêter à tout et n'importe quoi. Il y a d'ailleurs un moment un personnage qui essaye de le déchiffrer.
Le consul britannique en Palestine, Sébastien Wargrave, qui facilite la vie d'Isaac en échange de quelques avantages en nature, on va dire, et qui tâche, quand il le voit nu devant lui, de déchiffrer les zones de sa peau sombre, celles claires, de déceler des éclairs d'islamité ou une fugace chrétienté ici ou là. C'est vrai qu'Isaac, on ne sait pas trop au début, ne serait-ce que parce que on apprend qu'il a été dans une école cosmopolite, qu'il y a été amoureux d'un petit garçon, Ézéchiel, il aimait beaucoup sa façon de tenir sa kippa sur sa tête quand il courait après le ballon. Et Gabriel lui-même, quand il le rencontre, Isaac, pour la première fois, il ne sait pas quelle religion lui prêter. Est-ce que ça veut dire donc, Karim Katan, que deux Palestiniens peuvent se croiser par hasard, ici, dans votre livre, chez une vieille dame qui les prend pour compagnons de jeu de cartes, sans se reconnaître?
C'est une bonne question. Excellente question. Oui, oui. Oui, tout à fait. Et justement, il m'était important dans ce récit-là, dans ce roman-là, de m'assurer que on ne portait pas seulement justement le regard du consul Monsieur Wargrave, c'est-à-dire un regard en grande partie hérité du colonialisme qui cherche à tout catégoriser, à tout prix catégoriser les corps, dans notamment une visée d'élucidation, d'administration et des gens, des intimités, etc. Et donc Isaac, comme souvent je trouve les personnages de romans, il échappe en fait à ce regard qui essaye de le placer quelque part. C'était oui essentiel d'avoir ce trouble pour moi dans le livre, parce que je vois aussi à quel point c'est commun de vouloir administrer et catégoriser les corps des Arabes en général, des Palestiniens particulièrement, des hommes palestiniens tout particulièrement. Et donc Isaac, il échappe à ces catégorisations-là.
On apprend en tout cas qu'ils sont nés tous les deux en 1983. Ça pourrait être banal que de le dire, ils sont nés en 1983, mais chaque date a son importance, chaque année a eu son lot d'événements, de violences ou de poignées de main. Dans quel contexte naissent ces deux hommes qui vont s'aimer quand ils auront la majorité ?
C'est une bonne question. Pour moi, ils devaient naître autour de... à la fois d'un moment d'exacerbation de la violence et être de jeunes hommes, plus ou moins, à l'avènement d'Oslo. Donc, c'est ce qui explique, c'est ce qui permet aussi de comprendre une chose qui est à la fois centrale du roman sans jamais être complètement explicitée, qui est les différents papiers que ces jeunes hommes ont qui déterminent leur forme de mobilité. Et donc, je les ai placés comme des enfants des années 80 qui sont jeunes, plus ou moins jeunes hommes, adolescents, puis jeunes hommes à l'avènement d'Oslo pour déterminer. En fait, finalement, en Palestine, mais comme pour le coup, comme partout ailleurs, notre accès à la mobilité, notamment, il façonne nos antériorités. Il façonne nos manières de non seulement voir le monde, mais voir ce qu'on peut être et faire dans le monde. Mmh. Et donc, eux, autant je reste flou sur beaucoup des éléments administratifs de leur vie, autant ceux qui m'importaient, c'était qu'on ait une compréhension intime de ce que c'est que de naître dans cette situation.
Quand vous parlez des éléments administratifs de leur vie, c'est ce qu'on va comprendre ou ce dont on va se souvenir petit à petit. C'est bien que, en fonction des documents que vous avez, du statut que vous avez, vous pouvez plus ou moins vous déplacer. Vous pouvez, Gabriel, lui, il peut quitter le territoire, mais pas plus d'un an. Isaac, lui, ne peut pas se déplacer comme il le souhaiterait. Tout est question beaucoup d'espace et de corps qui se déplacent dans ces espaces contraints. Donc le contexte à leur naissance, vous le disiez, exacerbation de la violence. Ils auront 4 ans quand se déclenchera la première intifada, qui n'est pas du tout apparente dans le livre. J'essaie juste de replacer ces personnages dans leur contexte historique. Et c'est aussi les débuts d'un espoir d'autodétermination palestinienne. Quand en 88, le roi de Jordanie annonce renoncer à ses prétentions territoriales sur la Cisjordanie et rompre tous les liens administratifs avec ce territoire. La Cisjordanie est très présente, même si ce n'est pas le lieu principal de votre roman, qui se déroule pour beaucoup à Jérusalem. Donc, on reste un petit peu encore à Jérusalem, le jour de leur rencontre où ils se retrouvent, Gabriel et Isaac. Ils se recroisent après s'être éloignés dans le vestibule d'un hôtel où Isaac est réceptionniste et gardien de nuit. Ils se parlent, ou plutôt Isaac lui parle des heures et des heures, comme s'il jouait à Scheherazade des mille et une nuits, lui raconte des histoires invraisemblables pour le garder auprès de lui. Mais jamais il ne parle de l'occupation, tous les deux, jamais il ne parle du conflit, comme on dit à l'époque, cet euphémisme pour parler du conflit israélo-palestinien. C'est vrai qu'on a tendance à penser d'ici que c'est, et c'était déjà à l'époque, le seul sujet de conversation. Il n'en parle jamais.
Le ciel le dit à un moment d'ailleurs, s'adressant aux lecteurs et aux lectrices, il dit, vous savez, on ne parle jamais de ce qui constitue l'étoffe de nos existences. Et comment dire ? Alors évidemment, l'occupation notamment et l'apartheid sont un sujet de conversation omniprésent chez nous, dans la mesure où ça détermine notre vie, ça détermine absolument tout dans nos vies. Mais en même temps, on passe pas notre temps à en parler, puisque c'est ce qui constitue cette réalité absolument injuste dans laquelle on évolue. Donc en fait, c'est c'est important aussi, je pense, d'imaginer ça, de comprendre ça. C'est-à-dire que nos je veux pas trop utiliser ce mot, mais disons que la normalité ou le quotidien, la vie quotidienne, elle s'impose aussi à tout moment. Et c'est, je pense, aussi une force vitale importante qui n'en est pas moins politique. C'est-à-dire que quand on ne parle pas de l'occupation, ce n'est pas une déconnexion de la réalité. C'est juste que tout le monde sait très bien. Ces deux personnages savent très bien, même s'ils connaissent pas forcément les statuts l'un de l'autre, mais ils savent très bien qu'ils sont tous soumis à la même machine. Et à partir de là, on opère au sein de ce système comme on peut. Donc deux hommes essayant de n'importe qui d'ailleurs, essayant de se parler, de se rencontrer, de se séduire ou autre, ne vont pas commencer la discussion ainsi. D'ailleurs, ils en parlent quasiment jamais, à part quand ils sont en train de se déplacer, où le sujet se pose.
Ils vont devoir se déplacer. Non, ils vont pas devoir se déplacer. Ils vont avoir envie. Ils vont avoir le désir de se déplacer pour passer des vacances ensemble, ce qui semble la chose la plus naturelle du monde dans d'autres pays, mais pas en Palestine où, encore une fois, les deux hommes n'ont pas le même statut exactement, parce que cette histoire d'amour qui naît entre Gabriel et Isaac, alors des histoires d'amour en Israël et en Palestine, on en a lu, connu beaucoup, qui naissent entre une Israélienne et un Palestinien ou vice versa, ces mariages mixtes qui comblent d'ailleurs notre envie de voir de belles histoires émerger de la guerre, mais entre deux Palestiniens, ça semble davantage couler de source, indépendamment, Karim Khatan, du sexe et du genre des deux amoureux. Or, que ce soit deux hommes ou un homme et une femme, en quoi l'amour que porte un Palestinien à une ou un autre est différent, non par nature, mais par façon de le vivre, de tout autre amour?
Comme vous le dites, en effet, je pense qu'on va commencer par le fait qu'il n'est pas différent par nature, et c'est très intéressant de le souligner, en fait, parce que j'ose espérer, en tout cas, que, en fait, on peut-être qu'on lit aussi mon livre parce que on s'intéresse à une histoire d'amour, tout court. Ce serait, en tout cas pour moi, une belle chose. C'est-à-dire qu'on c'est pas, on ne cherche pas dans ce roman un témoignage d'une histoire d'amour palestinienne, mais d'une histoire d'amour qui, par ailleurs, s'avère être palestinienne et se manifeste dans ces paramètres-là. Donc je suis reconnaissant de souligner cet aspect-là qui est très important. Je pense que la différence, en tout cas dans ce roman et en général, c'est, entre autres, puisqu'on en parle beaucoup, c'est les espaces. Et ça veut dire la manière dont un corps peut ou pas se mouvoir dans des espaces, se détendre dans des espaces, se rencontrer dans ces espaces. Et comme je disais, dans quel type de mobilité il se place. Et voilà, Isaac et Gabriel décident de faire ce qui, ironiquement, ils appellent un road trip, mais qui est juste un petit tour en voiture, comme peuvent le faire des amoureux, le week-end, un petit week-end, hein, c'est week-end à Rome, quoi, c'est vraiment ça l'idée, qui devient, je dirais, j'ai pas envie de dire cauchemardesque, parce que je pense qu'il l'est pas, je pense que c'est quelque chose d'assez lumineux, qui vivent ensemble, mais qui est, voilà, pris dans ce que j'appelle encore une fois cette machine, quoi, de l'apartheid, qui, à tout moment, à tous les coins, à tous les tours de rue, les empêche d'eux. En fait, c'est des amours toujours empêchés.
Le cœur de leur histoire, écrivez-vous, c'est la nature du passeport de l'un et de l'autre, leur compte en banque, le fait que l'un ait besoin d'un permis pour être auprès de l'autre, tandis que l'autre ne peut quitter plus d'un an ce pays sous peine de tout perdre. En fait, on est face à deux hommes qui ont des possibilités toujours négociables, écrivez-vous, et jamais assurées, des moitiés de droits et des semi-prérogatives. Comment ça influence les choix de destination, par ailleurs, qu'ils auront pour ce fameux week-end en amoureux, et c'est même une semaine entière qu'ils s'accordent, c'est qu'ils veulent s'accorder.
C'est semaine à Rome. Mais déjà, c'est entre autres pour ça que le récit se déroule ensuite, enfin le voyage se déroule en Cisjordanie. Parce que c'est dans la Palestine, c'est en Cisjordanie qu'ils peuvent espérer voyager plus ou moins sans trop de troubles. Donc ils passent beaucoup de temps à regarder des cartes, et il y a tout un passage où ils regardent, et là aussi ils négocient les chemins, les itinéraires, puis ils imaginent ces cartes sans checkpoint, mais c'est même pas une posture politique pour eux, c'est juste un rêve. Oui, c'est un peu différent aussi. Parfois, ce sont seulement des rêves. Et à partir de là, ils élaborent des itinéraires de voyage dans notamment au final, il décide d'aller dans un village qui n'est jamais trop nommé, enfin auquel on ne donne pas de nom, un village plus ou moins fictif, mais inspiré de villages réels du nord de la Cisjordanie, où ils passeront cette semaine.
Près de Jénine, c'est ça ? Enfin, on ne sait pas trop, en fait.
On ne sait pas trop.
C'est dans un couvent, en tout cas, ça c'est plus surprenant.
Alors, il s'arrête d'abord dans un couvent, en effet. Il s'arrête dans un couvent, là, pour le coup, on sait que c'est vers Jéricho. Donc, c'est un couvent du désert. Il y a plusieurs couvents dans le désert de Judée que je trouve absolument magnifiques, extrêmement évocateurs. Couvent, là, dans le cas précis, transformé en chambre d'hôte. Donc, ils passent du temps dans ce couvent. Ils font escale là-bas et ensuite, ils vont vers le nord. On ne sait pas trop. Moi, j'imagine ça non loin de Naplouse, mais c'est jamais trop dit. Je pense qu'une personne qui connaît la Palestine peut reconnaître des éléments d'un village que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sebastia, où notamment il y a des ruines romaines qui sont très importantes dans le roman. Mais voilà, c'est libre au lecteur et à la lectrice de placer ça où il veut.
Alors, Gabriel a peut-être moins l'habitude de cette façon contrainte de se déplacer en Cisjordanie, parce que lui a grandi dans un village que vous dépeignez comme épargné de la colonisation, alors pour une raison tout à fait saugrenue, qui est que ce village a oublié un jour de passer à l'heure d'été, et que pour des raisons notamment administratives, les Israéliens décidèrent que c'était trop compliqué de coloniser par là. Pourquoi avoir choisi de dépeindre cet espace-là ? D'abord, est-ce que ça existe encore des villages comme ça en Cisjordanie qui sont encore complètement épargnés, qui vivent loin des colonies et qui vivent à leur rythme?
Non, pas du tout. C'est totalement fantasmagorique. Le village, en fait, c'est une ville réelle, hein, Birzeit, mais dans le roman, j'imagine qu'un jour, Birzeit a oublié de passer donc à l'heure d'été et qu'au fur et à mesure que ce décalage se met en place, le climat est déréglé, Birzeit est envahi par un blizzard permanent et du coup, tout le monde se dit c'est trop galère, on va pas s'ennuyer à essayer de coloniser Birzeit. Et il y a une espèce de, voilà, ils sont épargnés par ça. Et donc, Gabriel finit par grandir dans un pays des neiges. Mmh. Vraiment, voilà, un truc, c'est aussi une manière d'incarner, d'abord parce que je trouve ça très marrant, mais c'est aussi une manière d'incarner un peu le, vous savez, une réalité de l'apartheid, c'est que c'est complètement grotesque par moment. Il y a des choses grotesques, absurdes, et ce blizzard là, c'est une absurdité c'est une incarnation de l'absurdité de la situation en Palestine. En fait, on voit dans le roman que il y a beaucoup de dérèglements climatiques finalement entre le vent, le blizzard, etc. Ça permet de d'incarner cet aspect instable, en fait, permanent et chaotique auquel on fait face quand on vit soumis à ce genre de réalité.
Un village complètement fantasmagorique. En effet, en Cisjordanie, où la colonisation a considérablement restreint les déplacements ici, témoignage d'un habitant de Yabad, à l'ouest de Jénine, qu'on peut être croisé sur la route, Isaac et Gabriel.
Quand vous passez un checkpoint, il vous stoppe. Il te fouille et si vous avez des outils tranchants, il vous les enlève. Ensuite, ils décident s'ils veulent vous garder une ou deux heures pour embêter. Parfois, ils peuvent vous arrêter s'il y a un danger. La circulation est limitée. Certaines zones sont même inaccessibles. Par exemple, au sommet de la montagne, dans la colonie. Avant, les gens avaient l'habitude d'y cueillir des olives pendant la saison. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les colons ne les laissent pas s'approcher. Il y a un colon qui vit dans l'autre colonie, à Armish. Il a un drone de surveillance et si quelqu'un s'approche, il vient avec son véhicule, et même les bergers, ils les chassent. Ou même, parfois, il envoie l'armée pour les arrêter.
Témoignage de ce que peut faire la colonisation dans le quotidien des gens, dans les pratiques, les métiers, l'agriculture notamment, mais quand on sème, comme dans votre roman Karim Khatan, qu'est-ce que ça fait dans le corps, dans le cœur et tous ces organes qu'on utilise pour aimer, comme vous écrivez, qu'est-ce que ça fait d'être contraint systématiquement ?
Je pense qu'une chose que j'essayais un peu de peut-être d'illustrer ou d'explorer un peu aussi, c'est la place de la peur, espèce de peur un peu comment on dit ça, chevillé au corps ou je sais pas quoi, enfin j'aime pas trop cette expression, mais voilà, enfin
dans les entrailles,
cœur, voilà, ouais, vraiment dans les entrailles, qui se situe là et qui ne disparaît jamais. Et je pense que c'est quelque chose, voilà, qui est un peu moteur de ces deux personnages à plusieurs moments, qui est cette peur à la fois complètement énorme, complètement énorme, et en même temps qui a toutes les raisons d'exister, puisque tout autour d'eux leur montre qu'ils doivent avoir peur. Vous savez, quand on pense notamment aux colonies, mais c'est pas que les colonies, ce sont aussi l'armée, et puis c'est comme on voit aujourd'hui quand même tout ce que commet Israël partout en Palestine. Donc ils ont raison d'avoir peur. Mais ce qui est assez compliqué, je pense, à peut-être imaginer aussi, c'est ce que c'est que de voir des colonies. Au-delà de la question politique, en fait, voir des colonies grandir, parce qu'on les voit, parce qu'elles grandissent à vue d'œil, hein, les colonies, c'est hyper impressionnant. Voir le territoire, en fait, la géographie en permanence changer de semaine en semaine, c'est quand même assez troublant et extraordinaire. Enfin, quand j'utilise justement toutes ces références à de la géographie un peu déréglée et tout, c'est parce que quelque part, c'est ce que font les colonies, hein, littéralement. C'est qu'on les voit très rapidement changer. Et donc, il y a une peur, voilà, de voir des hordes de colons se déplacer, puisque les colons ont un peu droit de vie et de mort, hein, sur les Palestiniens. Les soldats aussi. Tout le monde, en fait, tous les autres ont droit de vie et de mort sur les Palestiniens. Et ça fait une crainte lancinante, ou enfin, constante. Alors, encore une fois, au moment où j'ai écrit le roman, c'était différent, mais disons, au moins, il y a une crainte, une peur à basse intensité permanente. Au moins. Ça, c'est le minimum de l'expérience. Alors, en ce moment, c'est pas une crainte, c'est pas une violence à basse intensité, mais c'est toujours, toujours. Il n'y a pas de moment de répit.
Une grande partie de l'histoire se déroule dans ce qu'on appelle la vieille ville de Jérusalem. À Jérusalem, dans cette vieille ville, étrange locution, écrivez-vous, que vieille ville pour dire la ville du dedans, par rapport à la nouvelle ville, celle du dehors, pour dire la ville à nous, froncée, froissée, impossible par rapport à l'autre, ouverte et dépliée à eux. Et pourtant, Isaac, il aime être dans Jérusalem, il aime se déplacer dans cette vieille ville, il aime regarder les gens, et on a même l'impression qu'il s'y sent chez lui.
Oui, il est chez lui.
Il est chez lui.
Cette vieille ville de Jérusalem, vous savez, il y a des villes comme ça qui sont tellement chargées d'histoire et de projections et de fantasmes, comme Paris, que les décrire ou tenter de les décrire, c'est toujours un défi et assez intéressant.
Et là, par le ciel, c'est d'autant plus intéressant de le faire décrire par le narrateur ciel.
Ouais. Mmh. Qui, en plus, a besoin, ne peut pas rentrer partout, il a besoin d'entrer par les lucarnes et les ouvertures, etc. Et cette Jérusalem, je voulais qu'on l'imagine un peu, cette Jérusalem que vit et que raconte Isaac, c'est une Jérusalem à la fois du désir aussi, une chose qu'on n'associe pas forcément à Jérusalem, mais qui est fondamentale dans une ville de recoins et de coins sombres. C'est aussi des espaces voilà, de désir, en général, je veux dire désir même au sens abstrait du terme. Et c'est une ville voilà, où, un peu gothique, en fait, voilà, sombre, où il se passe des choses un peu gore parfois, enfin bref, il raconte une ville, je pense, comme peut-être on a moins coutume de la percevoir quand on est un étranger.
Le ciel, lui, il y voit les touffes d'herbe qui poussent dans les fissures des murs et des sols. Il voit des piscines vides, antiques comme le temps, mais où le souvenir de l'eau persiste. Il voit des vieilles femmes plus vieilles que la terre, des jeunes belles aux lèvres rouges, et il entend 1000 langues et voit 1000 races et 1000 planètes à la fois. Il y a le monde entier encombré, dit-il, ce ciel au sujet de Jérusalem. Gabriel n'a pas la même, comme on dit, expérience aujourd'hui de la ville. Lui se balade plutôt dans les quartiers, dans la nouvelle ville. Il se sent à l'aise hors de la vieille ville, dans ce qu'il pense, lui, être la vraie ville, celle des bars et des restaurants, de la lumière et des passages piétons. Donc ce sont deux façons, encore une fois, d'habiter Jérusalem.
Oui, la Jérusalem est une ville faite de nombreuses dualités, ne serait-ce qu'entre montant ces appellations qui valent ce qu'elles valent, hein, de Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. C'est une ville occupée aussi, c'est très important. Donc l'occupation de Jérusalem est un point fondamental de l'histoire. Et je pense que voilà, ces deux personnages vivent à leur manière la dualité de cette ville qui, comme je le disais par rapport aux colonies aussi, en fait se métamorphose en permanence sous leurs pas et sous leurs yeux et dans leurs regards.
Isaac y retourne souvent, parce que même s'il n'y vit plus après l'école, ne serait-ce que quand il est petit, il aime rester et traîner dans Jérusalem. Gabriel y retourne souvent. Alors, encore une fois, dans le livre, on fait des passages, on va d'un lieu à l'autre, et notamment parce qu'Isaac a gardé un ami d'enfance qui s'appelle Adam, qui vit dans un coin de la Cisjordanie où les colons sont tout prêts et essayent de le pousser à plier bagages, mais lui continue parler de liberté et d'indépendance avec douceur, comme cette dame. Et on avait envie, Karim Katan, de faire des échos entre votre roman et des Palestiniens que les chaînes du service public ont beaucoup rencontrés ces dernières années.
Je me réveille tôt, dès 4h30, pour venir ici travailler la terre. J'élève 6 enfants. J'étais enceinte du dernier quand leur père est mort. Et donc l'argent, c'est moi qui dois l'assurer. Quand je finis ce que j'ai à faire et que je suis fatiguée, je viens voir mon dattier préféré et je m'adosse contre lui. Ce cher dattier me repose immensément. Il aspire toute la douleur, toute la souffrance intérieure et me soulage. C'est pour ça que je dis que notre terre-mère, quand on prend soin d'elle, elle prend soin de nous.
Une agricultrice palestinienne à Jéricho, Zainab Jahabis, rencontrée par une équipe d'Arte en 2022 dans ce documentaire Jéricho, la miraculeuse. Alors elle, cette dame, comme Adam, un des personnages de votre livre, l'Éden à l'aube, Karim Katan, où trouvent-ils leur raison d'être aujourd'hui ?
C'est très beau ce que dit cette dame de Jéricho. Ça, pour moi, ça évoque aussi vraiment quelque chose de très précis de Jéricho que je trouve extrêmement émouvant. Adam, le personnage qui lui aussi a un nom biblique d'ailleurs, dans l'Éden à l'aube, qui est donc l'ami d'Isaac, pour moi il permet aussi de, comment dire, Isaac et Gabriel vivent sous l'occupation mais ne parlent pas de ça et on sait pas trop quelles sont leurs positions en fait politiques, on perçoit pas forcément beaucoup ça parce que je les voulais ailleurs, mais je voulais aussi qu'on ait en fait l'image double à la fois d'un couple heureux ou d'un couple simple qui est celui d'Adam et son mec qui n'a pas de prénom, et aussi qu'on perçoive ce que c'est que une forme d'engagement politique par la terre. Dans ce cas, l'agriculture comme pratique de l'émancipation que fait Adam. Et je pense que c'est une chose qu'on retrouve beaucoup chez les Palestiniens, qui est un attachement viscéral à la terre et aux produits de la terre, dans la mesure où c'est aussi par ça qu'on vit et par ça d'abord qu'on soustrait la vie. Pas pour rien que les Israéliens arrachent les oliviers, par exemple. C'est des manières fondamentales de détricoter, de détruire entièrement des modes de vie, et donc des histoires, et donc des imaginaires, et donc des forces politiques. Et voilà, donc Adam, dans le livre, il apparaît assez régulièrement, et il permet d'entrevoir et d'apercevoir cet aspect-là d'une vie d'un jeune Palestinien.
Isaac et Gabriel continueront leur périple à la fois à travers la Cisjordanie, les collines de Cisjordanie, et Stéphanie Dujol, que nous recevrons tout à l'heure pour le Focus, parle de la Cisjordanie comme d'une portion de terre oblongue où les collines ondulent comme des tresses épaisses et un peu déliées de petites villageoises. Ils passent aussi beaucoup par des checkpoints et aussi des checkpoints abandonnés. Et je voulais savoir, Karim Katan, à quoi ressemble un checkpoint abandonné de l'armée israélienne?
C'est une belle citation que vous venez de faire, très juste. Il n'y a pas de checkpoint abandonné. C'est pareil, c'est un fantasme de ce livre. À un moment, quand le roman se commence à aller vers sa fin, à accélérer vers la fin qu'il va avoir, deux scènes un peu fondamentales ont lieu sur un checkpoint, et l'une est en regard de l'autre. Dans l'une, voilà, que je décrirai pas forcément ce qui s'y passe, mais c'est vraiment le moment de l'avènement de la violence pure coloniale sur des corps de jeunes hommes palestiniens. Et l'autre, c'est un peu cette image, le fantasme très de désir d'un checkpoint qui non seulement est abandonné, mais semble avoir été abandonné depuis toujours et est recouvert la nature reprend ses droits, voilà, lierre, une espèce de d'exubérance naturelle sur un checkpoint qui remet aussi ces forces politiques à leur place, justement, dans une autre temporalité. Le moment où on est libéré de tout ça, parce que la nature perdurera après ces monuments de la violence-là. Et Isaac et Gabriel se retrouvent voilà, sur un checkpoint abandonné. Ça donne lieu à une espèce de moment d'euphorie, de joie, d'amour, qui est une respiration, en fait, et qui permet à nouveau à la fois de nous placer dans la réalité de ce que c'est qu'un checkpoint, parce qu'on voit aussi ce que c'est qu'un checkpoint, et en même temps de nous en libérer. Pour moi, c'est un peu une scène d'émancipation, ce checkpoint abandonné, recouvert par la nature qui reprend ses doigts.
Et qui respire lentement, majestueusement, comme une plante, ce checkpoint abandonné. Alors, on ne dévoilera pas la fin de votre roman. Karim Katan, une jeep de l'armée israélienne va bientôt croiser la route d'Isaac et Gabriel. Et notre invité, dans un instant, écrit que quand vous vous installez en Cisjordanie, il ne faut pas longtemps pour comprendre que le danger vient moins des chars énormes dont le grondement annonce l'arrivée de fort loin, que des jeeps vives et légères qui vous surprennent comme l'éclair au coin d'une rue. Stéphanie Dujol qui publie un carnet de souvenirs de Cisjordanie et notre invitée juste après cette chanteuse palestinienne Racha Naas.
في رج بصوتك يا بنتي صوت الصدى قاعدة من دون حدا من دون شي وانا هون وانتي هناك بعيدة قاعدة انتي
La chanteuse palestinienne Racha Naas, issue de son album Amrat, qui veut dire parfois, paru l'année dernière. Vous écoutez Culture Monde, notre série Les écrivains racontent le monde. Aujourd'hui, l'auteur palestinien Karim Katan qui publie L'Éden à l'aube, une histoire d'amour fragile, comme le sont les espaces en Palestine qu'a arpenté notre deuxième invitée, Stéphanie Dujol.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
C'était ma première visite, on devait être au printemps. Je crois que les amandiers étaient en fleurs. Nous nous tenions sur la terrasse de la maison, face au jardin. Abou B me montrait le grand figuier en précisant qu'autrefois, au temps de son grand-père, il y avait de la vigne et des abricotiers un peu plus bas. À un moment, désignant de la main ce que l'on pouvait voir de ses terres depuis le surplomb de la terrasse, il s'est mis à les nommer. Une par une, de petits noms intimes et imagés, comme un berger aurait nommé ses brebis. J'appris qu'en Palestine, chaque parcelle, aussi fragmentaire, aussi minuscule soit-elle, a son nom à elle. Un nom lié à la singularité du terrain, à un détail du relief ou de la végétation. À une bête sauvage aperçue là un soir par un ancêtre, au serpent qui jadis y mordit un enfant, au coup de foudre qui terrassa une chevrière ou un vagabond. Ainsi, tous les petits noms de la Terre tracent une carte extrêmement minutieuse, invisible à l'œil du profane, du monde sinueux qui entoure les villages.
En Palestine, chaque lopin de terre a donc son nom selon que le terrain est plus ou moins large, plus ou moins plat, escarpé ou rocheux ou planté d'arbres fruitiers. Ainsi, notre invitée a-t-elle fait la connaissance de la broussailleuse, l'épineuse, la caillouteuse, la tortueuse, l'arrondie, l'embrouillée, la carrée, l'effondrée, la safranée, la chauve. Bonjour Stéphanie Dujol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes traductrice de littérature arabe contemporaine. Vous êtes à distance parce que vous êtes au Caire. En ce moment, vous avez travaillé comme interprète en Palestine pour la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, entre autres. Et de cette géographie que vous avez explorée, mais surtout des existences que vous avez croisées, vous avez fait un texte paru chez Actes Sud, « Les espaces sont fragiles, carnet de Cisjordanie ». Vous avez beaucoup parcouru les routes et les petits chemins de Cisjordanie avant que ne soit décidé par Ariel Sharon en 2002, puis ériger le mur de séparation. Est-ce que les déplacements, pour autant, étaient moins contraints les premières années où vous avez parcouru la Cisjordanie ?
Ils ont toujours été assez contraints, mais j'y suis arrivée en 98, donc à la fin de la période Oslo, qui était légèrement plus calme que les autres périodes, mais pas aussi calme qu'on l'imagine. Et donc, à cette époque, les villes étaient un peu moins étouffées qu'elles ne le sont devenues au début de la seconde intifada en l'an 2000. Mmh. Et à partir de là, ça a été un peu la dégringolade.
Même si vous racontez déjà des chemins de terre qui s'écartent de la route pour rejoindre des villages emmêlés dans les collines, mais dès les premiers mètres, chaque sentier est entravé par un haut talus de terre ou de ferraille, de détritus, de carcasses de tôles installées par l'armée pour empêcher les véhicules de passer sur la route. Comment font tous ceux qui, en voiture, en bus, en taxi collectif, en mobylette et parfois en âne, tentent de se faufiler au moins d'un village à l'autre?
Alors ça, c'était au tout début de la seconde intifada, quand la Cisjordanie s'est retrouvée tronçonnée comme ça, dès le début des petites routes et des chemins. Alors, pas partout en Cisjordanie, et puis ça bougeait, parce que le propre de l'occupation israélienne, en tout cas en Cisjordanie, c'est de toujours vous surprendre. Donc les entraves changent de place tout le temps, pour que même quand on s'habitue à une entrave, ça ne perdure pas, cette habitude-là.
C'est pour ça que vous voyez des Palestiniens prendre par les champs, serpenter entre les oliviers et les figuiers dans un brouillard de poussière épaisse jusqu'à rejoindre un bout de sentier, et on ne les devine pas depuis la route. Ces gens qui avancent, écrivez-vous, comme des fourmis dans un labyrinthe démoniaque. Il y a aussi tous ceux qui vont travailler en Israël. Comment vous les reconnaissez à l'œil nu, entre guillemets?
Alors oui, ce que je raconte dans un tout petit texte, c'est que j'avais remarqué petit à petit que les ouvriers qui vont travailler en Israël très souvent se baladent avec un tout petit sac en plastique quasi transparent accroché par un nœud à leur doigt, comme ça, c'est ce que je dis. À mon sens, c'est pour éviter de se faire tirer dessus au checkpoint, parce que dès qu'un homme semble avoir quelque chose de lourd dans le dos ou dans un, il est considéré comme suspect. Et il peut se faire tirer dessus sans sommation.
C'est pour ça aussi que d'autres y vont la nuit, clandestinement, qu'ils peuvent y croiser des hyènes, notamment, qui rôdent. Vous avez au barrage de Kalandia, celui qui se trouve à la sortie sud de Ramallah, qui est vraiment devenu une véritable frontière, vous avez rencontré un vendeur de fruits et légumes, un habitant d'un village à côté de Naplouse, qui tous les jours ou presque va vendre sa marchandise à Jérusalem. Comment est-ce qu'il s'y prend? On est vraiment toujours au début des années 2000, là. Comment est-ce qu'il s'y prend? Pourquoi est-ce qu'il doit réinventer le trajet à chaque fois?
En fait, ce vendeur, je l'ai connu à l'hôpital. Il venait de se faire tirer dessus pendant l'invasion de Naplouse en 2002. Et il s'est fait tirer dessus dans son village juste au début de cette invasion, en fait, qui touchait aussi certains des villages alentours. Mais quand il me racontait ses aventures sur les chemins de traverse pour aller à Jérusalem clandestinement, c'était un peu avant l'invasion, enfin jusqu'à ce qu'ils se fassent tirer dessus. Mais les routes, comme je vous l'ai raconté, étaient déjà très très entravées. Et lui, en fait, c'était un personnage, je l'appelle Trompe-la-Mort, c'est un personnage qui refusait totalement la réalité de l'occupation et de l'apartheid. Et donc, il trouvait tous les moyens possibles et imaginables pour contourner ça. Et ce que je ne raconte pas dans le livre, c'est que, notamment, il avait des fausses cartes de l'ONU et de différentes organisations internationales. Et il passait parfois comme ça au checkpoint. Et d'autres fois, il devait prendre des chemins de montagne, en fait, qu'il connaissait par cœur, effectivement. Il était très impressionnant comme personnage, surtout qu'il se retrouvait dans cette chambre avec un petit instituteur tout timide et tout apeuré. Et bref, ils étaient très complémentaires comme personnages.
Donc il continue à faire le chemin même en pleine invasion. C'est juste que maintenant le trajet est encore plus long de l'aube jusqu'au milieu de la nuit suivante. Sophie Dujol, parce que on est bien à ce moment-là en avril 2002, Naplouse a été la scène de combats violents dans le cadre de l'opération Mur de protection menée par l'armée israélienne et contre laquelle se sont battus des groupes palestiniens. Et vous y allez à Naplouse. À quoi ressemble Naplouse juste après l'invasion quand l'armée s'en retire?
Alors, en fait, j'y étais déjà. Moi, je travaillais à Médecins du Monde depuis le début de cette année-là. J'y étais déjà. J'en étais sortie juste quelques jours au début de l'invasion, contrainte et forcée, parce que bon, Médecins du Monde avait décidé d'évacuer. Mais on a réussi, moi et cette psychiatre, à y revenir. J'ai été juste avec cette collègue, cette psychiatre, c'est extraordinaire aussi. Les autres collègues n'étaient plus là, enfin les autres collègues étrangers, mais il y avait notre collègue palestinien qui était resté sur la montagne en face. Oui, c'était très impressionnant parce que pendant un mois, on avait vécu au son des bombardements et du silence alterné. Il n'y avait plus du tout de vie dans la ville, tout le monde était cloîtré chez soi. Et il n'y avait plus d'appel à la prière, même, c'est ce que je raconte aussi. Et c'était, oui, je me souviens de quand on a retrouvé les collègues palestiniens au bureau, qui étaient tous venus à pied, d'ailleurs, pour voir leur ville, pour voir ce qu'elle était devenue. Et ils étaient tous complètement sonnés. Mais ils avaient eu une autre expérience que la mienne, parce que moi, j'avais finalement la chance de pouvoir travailler pendant cette période-là, grâce aux ambulances qui nous amenaient à l'hôpital. Et pour moi, ça avait été une période pas du tout dépressive, si vous voulez, au contraire. J'avais l'impression de servir à quelque chose. Tandis qu'eux, ils étaient extrêmement frustrés d'avoir été enfermés comme ça. Et parfois, avec leur maison occupée par l'armée israélienne, par des snipers qui habitaient au-dessus de chez eux.
Pendant 3 mois après cette opération, le couvre-feu est levé 4 heures par jour pendant lesquelles la ville grouille dans tous les sens comme une fourmilière. Mais il y a ce monsieur que vous appelez K qui ne sort pas du tout de chez lui parce que des chars sont juste en face de sa maison. Et dans son jardin, écrivez-vous, ces roses fanent sur pied parce qu'il ne sort même plus dans son jardin. Vous avez également vécu, Stéphanie Dujol, à Ramallah pour y traduire vos livres. À partir de 2004, vous vivez dans une maison sur la colline et de là-haut, vous croisiez aussi les jeunes qui venaient prendre des pierres pour les lancer sur les militaires.
Oui, enfin, je les ai pas croisés parce que j'étais pas là au moment où ça s'est passé. J'étais en ville et on m'a dit de pas rentrer parce que il y avait du grabuge sur la colline, si vous voulez. Mais oui, c'était un endroit assez particulier, comme je le décris dans ce texte-là, qui était ouvert aux quatre vents. Enfin, c'était très impressionnant parce que effectivement, n'importe qui pouvait passer dans ce qui était censé être le jardin de la maison. Et c'était très beau en fait, cette maison traversée par le monde en permanence, et notamment quand il y avait une incursion israélienne, des jeunes qui venaient se poster là parce que c'était pratique pour lancer des pierres sur les jeeps et les blindés qui passaient dans la rue d'en bas.
Alors pour terminer, Stéphanie Dujol, vous connaissez aussi la bande de Gaza pour y avoir vécu en 2009. Vous vous accompagniez alors comme interprète une petite équipe de mission civile qui venait là pour témoigner des destructions et des conséquences de la grosse agression contre Gaza cet hiver-là. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouvelles des gens du camp de Jabalia où vous aviez animé des ateliers ?
Non, non, mais j'ai même plus de nouvelles de mes amis, ceux qui sont encore en vie. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont encore sous les décombres de leur maison depuis des mois, qui n'ont pas pu être récupérés. Et quant aux enfants avec lesquels je travaillais, aux petites filles qui doivent maintenant avoir une vingtaine d'années, non, j'ai pas de nouvelles, mais vous savez, tout, j'habite au Caire, et on rencontre beaucoup. Enfin, moi, je suis assez active, impliquée dans l'aide aux Palestiniens rescapés qui ont pu sortir en Égypte avant mai 2024. Tous les gens que je rencontre ont perdu la moitié de leur famille. C'est des chiffres inimaginables en fait. Et récemment, une famille dont je me souviens du nom, je me souviens que j'avais deux petites filles de cette famille-là à Jabalia. J'ai lu dans les nouvelles que 100 personnes de cette famille à Jabalia ont été tuées d'un coup. Sans doute qu'elles s'étaient toutes réunies dans le même immeuble. Voilà, je me suis posé la question de savoir s'il y avait les deux petite fille devenue jeune femme avec lesquelles j'avais travaillé.
Et il paraît bien loin le projet que vous aviez eu à l'époque de demander aux gens de Gaza, de ce camp de Jabalia, où ils percevaient encore de la beauté. Vous aviez commencé, mais vous n'aviez pas terminé. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie Dujol, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
Les espaces sont fragiles. Carnet de Cisjordanie, 1998-2019, apparu chez Actes Sud dans la collection Un endroit où aller. Karim Khatan, on est toujours avec vous. Il se trouve que vous avez l'un et l'autre publié après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, des récits rédigés avant cette date et pendant laquelle ont été commis des crimes de guerre qui en déclencheront d'autres, ceux de la riposte israélienne. Est-ce que le 7 octobre a remis en cause l'apparition de votre livre, qui n'en fait par définition aucune mention ? Quelle question ça a suscité pour vous ?
Pour moi, la question fondamentale avec laquelle j'ai dû me débattre jusqu'à essayer de trouver une réponse, c'était... Est-ce que je mets à jour en partie le texte, puisqu'on était encore dans le travail d'édition, hein, qui est un long travail, donc il y avait de la marge un peu pour changer peut-être un peu le texte, pour l'adapter à la situation actuelle, pour peut-être faire une préface, pour expliquer pourquoi ce roman apparaît ainsi à ce moment-là. Quand on contemple notamment l'anéantissement méthodique de Gaza, je me disais, que vient faire mon roman là-dedans ? Et après de longues hésitations, et je pense que toutes les solutions sont bonnes, toutes les réponses sont bonnes, hein, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais la mienne a été que j'ai mon engagement d'écrivain dans les tribunes, etc., que je peux écrire, et j'ai mon travail de romancier qui n'est pas exactement le même, il est évidemment engagé, enfin je veux dire, tout texte est politique, mais c'est pas la même temporalité. Et il était important pour moi, quelque part, que le roman se place dans une autre temporalité, parce que pour... Comme on le disait tout à l'heure, cette idée de s'affranchir de la géographie, ça ne veut pas dire être déconnecté de cette géographie, ça veut dire aussi que on peut imaginer et écrire hors des paramètres, enfin, hors de la violence qu'on nous inflige, en fait. Et je me suis dit, pour moi, c'était important, sans faire sans ignorer l'anéantissement qu'on constate, de pas le faire entrer dans mon roman, mais peut-être juste pour noter une chose importante, beaucoup de gens lisent le texte comme s'il avait été écrit après. Et en fait, ça montre qu'on est dans une continuité de violence. Voilà.
Un continuum de la violence, et chaque jour, on continue à compter le nombre de morts que fait la guerre, comme les personnages de votre livre comptent le nombre de victimes du Ramsim, ces vents d'Égypte. Merci beaucoup, Karim Khatan. Vous avez fait paraître en août L'Éden à l'aube aux éditions Elizade. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.